Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully, with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah!
Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 629 du podcast Touchdown Actu. Je suis Raoul Villeroy, quel plaisir de retrouver ces podcasts de preview du jeudi et quel plaisir de retrouver Victor Roulier. Salut Victor.
Et bonjour Raoul, bonjour à tous. Oui, grand plaisir de te retrouver à l'animation.
Ah ça m'avait un peu manqué, mais ça y est, je suis là, je suis de retour, je vais essayer d'en faire un maximum cette année et je suis très content de commencer avec toi. D'abord, un petit rappel mesdames et messieurs, puisque l'émission du jour vous est présentée par 6play. Vivez la saison régulière sur 6play tous les dimanches à 19h, une affiche NFL en direct et gratuitement. Et ce dimanche, ce sera la belle affiche entre les Jaguars et les Chiefs, commentée par Alain Mattei et Grégory Richard de l'équipe Touchdown Actu. Alors, direction l'appli 6play ou 6play.fr. On va parler cette semaine de plusieurs choses. D'abord, le débat du jour, les Browns et leur division. Vous allez voir qu'on part un peu en enflammade, mais c'est dans l'esprit de cette deuxième semaine de NFL. On va parler de l'affiche de la semaine. On a choisi le match entre les Seahawks et les Lions. On fera un point sur tous les pronos de tous les matchs, les cotes Unibet. Et puis, bah voilà, ça me paraît pas mal. Victor, est-ce que tu es prêt?
Je suis prêt à m'enflammer.
J'adore. Alors, c'est parti. Attention, on y va, un nouveau podcast après un jingle.
Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Mesdames et messieurs, vous avez écouté hier l'épisode de débrief de la semaine 1, et si vous ne l'avez pas fait, foncez l'écouter sur toutes les plateformes de podcast. Et j'écoutais ça ce matin, et Alain disait qu'après la semaine 1, il faut tempérer, que la saison est longue, etc., etc. Eh bien moi je dis non. Moi je dis vive les enflammades post-semaine 1, je dis vive les conclusions hâtives, je dis oui à la hype. Et c'est dans cet état d'esprit qu'on va aborder notre débat du jour, Victor. Et j'ai un peu envie de mettre tout de suite les pieds dans le plat pour mettre les gens dans l'ambiance. Victor, est-ce que les Browns vont gagner l'AFC Nord? Voilà, c'est ça notre débat.
Non, mais c'est un vrai débat parce que tu sais, avant la saison, on disait « Ah, les Bengals, ça fait deux fois qu'ils vont en finale de conférence. Oh, les Ravens, ils ont Lamar Jackson. Oh, les Steelers, ils commencent à monter quelque chose, etc. » Et littéralement, personne ne parlait des Cleveland Browns. Pourtant, on l'a dit dans la pastille, ils avaient un effectif ultra complet. Et ils ont rappelé dès la semaine 1 que oui, c'est une division extrêmement homogène, et oui, ils ont largement les armes pour la gagner. Alors évidemment, on est un peu provocateur en parlant de favoris ou autre, mais ça fait partie du jeu. Mais après une semaine, en tout cas, ils ont prouvé qu'ils étaient légitimes pour pourquoi pas prétendre à cette couronne.
Si ça te va, moi j'ai imaginé qu'on fasse ça un peu sous deux axes. D'abord, est-ce que effectivement on a un peu sous-estimé les Browns et vu ce qu'ils ont proposé en semaine 1, on peut raisonnablement les mettre un peu plus haut dans notre curseur des équipes de cette saison? Et est-ce qu'on n'a pas été peut-être un peu trop optimiste aussi sur les autres équipes de la division? À différents niveaux, on va y revenir, mais voilà. Par quoi tu veux commencer? Est-ce que tu veux commencer par parler des Browns qui sont peut-être un peu meilleurs ou des autres équipes qu'on a peut-être vues un peu trop belles?
Écoute, oui, des Browns qui sont un peu meilleurs. En fait, si tu veux, ce qui est assez impressionnant avec cette équipe, c'est qu'il n'y a pas de vraie faiblesse. Tu as quand même des bons joueurs à n'importe quel poste. Alors évidemment, on peut chipoter sur des receveurs, sur les defensive tackles ou quoi, mais il n'y a pas une vraie faiblesse. Et en plus, quand tu regardes leur effectif en détail, il y a beaucoup de profondeur, en fait, sur beaucoup de postes. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important parce que dans une saison, spoiler, en foot américain, il va y avoir beaucoup de blessés et beaucoup de remplaçants vont jouer. Et c'est vrai qu'en fait, c'est cette combinaison d'effectifs complets, c'est cette combinaison de stars. Alors, il y a des choses qu'on connaissait déjà, la ligne offensive, le jeu de course, tout ça, on sait que c'est assez bon chez les Browns. Moi, surtout à défense, qui m'a fait me lever de mon siège dimanche, parce que je trouve qu'il y a des joueurs qui arrivent à maturité. Grandel Pitt, qui est quand même très jeune, eh ben, il a fait un très bon match. Au niveau de la ligne défensive, alors là, il est un peu moins jeune, mais Za'Darius Smith, est-ce que ce n'est pas l'élément qui manquait au pass rush? Tu vois, il y a toutes ces choses-là qui font que... Et il y a un duo de cornerback extraordinaire. Il y a toutes ces choses-là qui font que... Bah, honnêtement, alors sur le papier, les Bengals sont un peu au-dessus, mais la preuve, les Browns les ont battus semaine 1. Et sur les deux autres équipes, je trouve qu'ils regardent les yeux dans les yeux les effectifs des deux autres équipes.
Moi, il y a un truc qui m'a tout de suite fait faire tilt en préparant cette émission, c'est quand même qu'aujourd'hui, après une semaine, hashtag enflammade, hein, bien sûr, c'est le thème de l'émission, c'est la meilleure défense de la NFL. Ils ont maintenu les Bengals à 143 yards, alors que, oui, bien sûr qu'il y a des équipes qui ont fait des très bonnes performances défensives, mais qui affrontaient peut-être des équipes un peu plus faibles sur le papier. Les Browns, ils affrontaient les Bengals qui, on le sait, ont une armada offensive et ont les capacités d'aller très loin dans cette saison comme les saisons précédentes. Mais voilà, ils ont réussi à les maintenir en place. Tu le disais, bien sûr, les saisons sont plus fortes peut-être en début de saison. Mais voilà, moi je trouve que ce qu'ils ont montré sur ce premier match, c'est digne du défense top 5. Allez, top 5. Allez, je dis top 5. Voilà, c'est mon hot take du jour.
Mais tu sais...
Toi, où est-ce que tu les vois un peu?
Mais tu sais, le truc, c'est que la défense, les joueurs, c'est important, mais le coordinateur, ça l'est presque encore plus dans la défense. Et quand même, Jim Schwartz, c'est pas un nouveau venu. C'est quelqu'un qui, pendant des années, a été un coordinateur défensif reconnu, qui a gagné notamment le Super Bowl. Enfin, c'est quand même une expérience non négligeable. Et un homme comme ça, tu vois, autant une défense qui aurait surperformé, venue de nulle part, sur une première semaine, je m'enflammerais peut-être moins. Mais là, je trouve que c'est une défense qui peut-être a juste... En fait, il y avait tous les instruments. Et ils viennent enfin de trouver leur chef d'orchestre.
Oh là là, c'est exceptionnel. Quelle belle métaphore musicale, j'adore. Un autre point que tu as mentionné et qui, moi, me rassure quant au fait que Cleveland a des vrais arguments à défendre cette saison, c'est le jeu au sol. Et là, pareil, petite stat, 206 yards gagnés au premier match. C'est la deuxième meilleure attaque au sol de la ligue. Nick Chubb est très régulier. Deshaun Watson, on va en reparler un tout petit peu après, mais je trouve qu'il apporte aussi au sol, même si ce n'est pas sa force principal, en tout cas c'est un bon atout pour lui. Est-ce que ce jeu au sol peut amener Cleveland loin en saison régulière? Pour l'instant on est en saison régulière, on parlera peut-être de la suite, mais en saison régulière, est-ce que Cleveland peut s'appuyer là-dessus?
Oui, bah écoute, ils l'ont fait hein, les saisons précédentes. Alors il y a eu des saisons avec plus de réussite que d'autres, mais on se rappelle, c'était quand même il n'y a pas si longtemps qu'en 2020, si je ne dis pas de bêtises, ils vont en playoff comme ça. Et Deshaun Watson, bah, j'ai envie de te dire qu'il peut faire que progresser. J'ai dit dans le débrief qu'il avait fait une Jared Goff, quoi, le joueur un peu game manager, etc. Alors évidemment, t'en attends plus d'un joueur à 230 millions, mais partant du postulat qu'il serait censé progresser au fil de la saison, cette équipe, pour l'instant, oui, elle risque d'être unidimensionnelle en début de saison, pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire, ils ont une force qu'ils savent exploiter, mais si un jour ça marche pas, bah, est-ce qu'ils ont la possibilité de diversifier? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, ils ont des armes fiables et une identité claire.
Je te trouve dur. Alors, en fait, moi, je me mets un peu dans une perspective différente de dire que, effectivement, si Deshaun Watson n'apporte pas plus au vu de son salaire, c'est un peu dommage. Maintenant, si ça leur suffit, et qu'ils font une très bonne saison et qu'ils vont un peu plus loin en playoff, est-ce que vraiment l'argument de ah, Deshaun Watson est trop payé, c'est entendable? Moi j'ai du mal à l'entendre dans la mesure où voilà, à partir du moment où tout fonctionne, bon bah l'année après tu pourras peut-être hein, quoique non, c'est très garanti son contrat.
Il y a tout qui est garanti dans son contrat.
Bon, alors effectivement, s'il pouvait apporter plus, on cracherait pas dessus, mais tant que ça marche, moi j'ai envie de dire, profitez-en.
Oui, oui.
Derrière, tant pis pour vous, vous avez mal négocié, hein, mais voilà. Donc voilà, moi c'était un peu ces points-là que j'avais. Excellente défense, jeu au sol qui va tout à fait tenir la baraque. Et bon, bah Watson, qui est un peu un facteur X, on n'est plus dans les previews d'avant-saison, mais tant qu'il n'empêche pas cette équipe des Browns de gagner.
De perdre,
moi,
perdre.
Je peux m'en contenter.
Oui.
De perdre. Oui,
d'accord. J'avais pas mal compris ta fin de phrase, autant pour moi. Oui, oui.
Non, de gagner, ouais, tu vois.
Il n'est pas un frein. Oui, ben c'est ce que je dis, c'est Jared Goff. Quoi. Il fait pas perdre, il fait pas gagner, mais il est là.
Il est là, et j'allais dire on l'aime bien, ça dépend, mais
non,
il
non,
est.
Non.
Bon. Alors, donc les Browns, ok, ils sont sérieux de leur côté. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils ont des vrais arguments à défendre dans cette AFC Nord? C'est que peut-être il y a des choses, après une semaine, qui commencent à poindre le bout de leur nez chez d'autres équipes. On parlera du calendrier en toute fin si ça te va, mais les Steelers, les Bengals, les Ravens, il y a peut-être des choses à en redire. Les Bengals, déjà, effectivement, ils perdent ce premier match. Et moi, il y a un autre truc qui m'inquiète, entre guillemets. C'est que, j'ai dit qu'on en parlait après, je vais mettre les pieds dedans tout de suite. C'est que, ils ont quand même un calendrier qui est plus difficile, dans la mesure où, étant premier de division l'an dernier, ils affrontent les Bills et les Chiefs. Ça fait deux matchs en plus à prendre qui sont pas simples. À partir du moment où tu perds des matchs dans ta division face à des équipes censées être moins fortes, est-ce que tu te mets pas un peu en danger aussi pour aller chercher le titre au bout?
Ouais, après, il y a même trois matchs maintenant indexés sur la performance depuis qu'on a rajouté ce fameux 17e match NFC-AFC. Mais pour autant, moi, j'ai envie de te dire sur les Bengals, pour l'instant, je m'inquiète pas trop parce qu'on est sur une équipe bon, voilà, qui a eu un accident. Ça arrive. C'est pas la première fois qu'ils démarrent piano-piano une saison. Mais on va quand même leur laisser le bénéfice du doute parce que c'est une équipe qui a allé au Super Bowl il y a deux ans et en finale de conférence l'année prochaine. Par contre, les années dernières.
Ils commencent pas en 0-2 d'ailleurs l'an dernier,
c'est possible. C'est tout.
Ouais.
Et après, par contre, sur les deux autres, je m'inquiète beaucoup plus. Les Steelers, parce qu'on en attendait beaucoup et qu'ils n'ont rien montré. Alors, est-ce que c'est un accident? Peut-être, mais on va dire qu'il y a plus de certitude du côté des Bengals pour dire qu'ils vont rebondir que du côté des Steelers. Et d'une façon très pragmatique, les Ravens, pour la 15e année d'affilée, ils risquent d'être bouffés par les blessures. C'est pas possible, ils sont maudits. Ils ont construit leur stade sur un ancien temple indien, je sais pas. Mais je veux dire, premier match, tu perds ton centre, ton tackle gauche, ton cornerback, ton running back. Il y a un moment, tu perds quatre titulaires en un match. C'est pas vivable. Et t'as l'impression que c'est tous les ans. À un moment, il y a peut-être un problème de préparation physique d'ailleurs. Hein. C'est pas que du hasard.
Oui, c'est ce qu'on commence à se dire aussi un petit peu. Maintenant, bon, c'est effectivement des intangibles que tu peux pas complètement contrôler. La répétition fait qu'il y a des questions peut-être à se poser. Sur les Steelers, peut-être, effectivement, on peut en parler. C'était le match que vous avez, j'espère, suivi sur Sisplay la semaine dernière avec Alain et Grégory aux commandes. Moi, ils m'ont un peu inquiété dans la mesure où on attend beaucoup de cette défense qui, certes, a affronté une équipe des Niners qui a déroulé en attaque, mais ils ont quand même encaissé 391 yards. Je les pensais capables d'être plus décisifs que ça dans la mesure où, oui, TJ Watt, il est là, il est présent, il fait des stats, mais au final, ça n'apporte pas grand-chose. C'est-à-dire qu'ils encaissent, ils prennent des points, ils prennent des yards, la défense recule. Et en fait, comme l'attaque n'a pas l'air de toute façon, on ne comptait pas dessus cette saison et elle n'a pas l'air de pouvoir vraiment faire quelque chose, si la défense ne suit pas, je suis inquiet pour eux comme toi.
Ouais, et en plus, la défense qui a une TJ Watt dépendance et on sait que malheureusement, ces dernières années, il a un tout petit peu tendance à se blesser. Mais moi, c'est Pickett surtout que j'ai trouvé un peu perdu. J'avais trouvé très confiant en pré-saison et là, j'ai trouvé perdu. Alors, la défense des Niners, ce n'est pas un cadeau pour commencer la saison. On est bien d'accord. Mais malgré tout, oui. On disait que la ligne avait progressé. Bah, finalement, elle n'avait pas l'air bien meilleure que celle de l'année dernière. Enfin, il y a un peu tout à revoir. Mais vraiment, les Steelers, En fait, le truc, c'est que si les Bengals sont à 0-2, ils ont suffisamment de ressources pour revenir. Les Steelers, ça risque de leur mettre un coup derrière la case. Donc, il faut vraiment que ces genres d'équipes, il va falloir se réveiller très, très vite.
Mais donc, voilà, on a fait un petit point. Les Steelers, on n'y croit pas trop. Les Ravens, déjà beaucoup de blessures. Mmh. À voir comment ils se relèvent. Les Bengals, oui, on y croit parce qu'il y a un effectif, mais quand même, le fait d'avoir déjà un match de perdu face aux Browns, si on pense dans une optique classement de fin de saison au sein de la division, c'est quand même pas ce qu'il y avait de mieux pour commencer. Et en fait, c'est ce que je voulais te dire et orienter un peu notre discussion là-dessus, c'est que si Cleveland gagne lundi soir, et je prends un peu d'avance sur nos pronos, mais moi je pense que oui, ils seront en 2-0. Ça fait depuis 1993 que les Browns n'ont pas été en 2-0 pour un début de saison NFL. Donc, on serait quand même sur une petite performance historique, relativement. Et si tu mènes 2-0 en ayant pris un match face aux Bengals et face aux Steelers, je trouve que déjà dans ta division, tu prends une belle option en termes de classement interne hein, pour aller gratter la première place. Ça me semble, tu vois, j'avais pas noté ce début de calendrier vraiment interdivisionnel, mais ça me semble, du coup, prendre un beau tournant pour les Browns que j'attendais pas forcément comme ça. Est-ce que toi, tu y crois? Voilà, question
simple. Je pense que ça fait partie du rayon des possibles. Et ce qui est assez rigolo, c'est que Bengals Browns, c'est aussi le dernier match de la saison. C'est le premier et c'est le dernier. Et il y a un monde où c'est la finale pour la division.
Alors, ce serait super
là, là encore, hein, hashtag enflammade, mais en tout cas, je pense que c'est une division qui... C'est peut-être la seule division où je suis sorti de la semaine 1 et je me suis dit, j'ai l'impression qu'on a vraiment appris des trucs et qu'on a vraiment notre cerveau retourné là où sur d'autres divisions, tu te dis, c'est la première semaine, etc. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même un mouvement de fond. Est-ce qu'on n'a pas oublié Browns? C'est une vraie question.
Vous l'aurez entendu ici en premier, les Browns vont remporter la division AFC Nord, messieurs, dames, c'est annoncé, c'est la première enflammade de ce podcast preview de la semaine 2 de NFL 2023. On se fait un petit jingle et on passe à notre affiche de la semaine. L'affiche de la semaine, c'est le match entre les Lions de Détroit et les Seahawks de Seattle. Les Lions qui ont remporté leur premier match face aux Chiefs, les Seahawks qui ont perdu. Le train de hype des Lions qui du coup repart de plus belle, Victor, hein, une belle victoire face aux Chiefs, une dynamique qui s'arrête plus depuis le milieu de la saison dernière environ. J'ai retrouvé la stat, ils sont à 9 victoires sur les 11 derniers matchs. J'avoue que j'ai sauté dans le train de hype, je l'avais déjà fait avant la saison, mais là vraiment je me dis qu'il y a quelque chose à faire du côté de Détroit. Est-ce que tu me suis, est-ce que tu veux monter, est-ce que je te compose ton billet, comment on fait?
Le train de hype, tu passes trop de temps sur Twitch, toi.
C'est vrai.
Écoute, comme j'ai eu l'occasion de dire dans le fauteuil dimanche, je suis pas encore dans le train, pour reprendre la métaphore, mais je suis arrivé sur le quai. C'est-à-dire que, en fait, l'attaque a pas été très bonne jeudi, et ils ont gagné malgré ça. Et pour moi, c'est le principal enseignement. C'est-à-dire que l'année dernière, c'est l'attaque qui a fait gagner tous les matchs, et c'est la défense qui les a plombés semaine après semaine après semaine après semaine. Et là, sur le premier match, Gardner Johnson, super acquisition. Jack Campbell pour un premier match, très bien. Hutchinson, son premier match de la saison pour le sophomore, très bien aussi. Brian Branch, très bien aussi. Bon, on verra s'il est blessé ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est que... Et il y a encore Mosley à arriver, etc. Donc, je trouve que entre les recrutements et les jeunes joueurs, t'as plein de joueurs qui tirent vers le haut cette défense. Et si les Lions arrivent à être une bonne attaque et une bonne défense, là, oui, on va commencer à sérieusement causer. Oui, ça, c'est clair.
Bah, une bonne attaque, une bonne défense, c'est une bonne équipe
c'est
NFL.
Ça,
hein.
Mais tu sais, les Lions, et je dis ça avec tout l'amour du monde, j'ai toujours tendance à être un peu intraumatisé, à être imprudent. Quoi. Tant que c'est pas fait pour les Lions, j'attends.
Le, le poids psychologique de l'histoire. Il y a plein d'équipes comme ça en NFL. Et c'est vrai que depuis le temps qu'on les suit, on a du mal à se les imaginer dans le haut du tableau. Mais c'est ça là, aussi la beauté de ce sport-là. Pourquoi on a choisi ce match ? En vrai, il y a quand même un enjeu pour les places en play-off. On parle de deux équipes qui, aujourd'hui, je pense, sont candidates à une wild card. C'est une stat qui revient souvent en NFL en semaine 2. Les équipes en 0-2 ou les équipes en 2-0, c'est quand même des stats à chaque fois qui vont très en faveur d'une qualification ou en défaveur, évidemment, vous vous doutez bien. J'ai retrouvé les chiffres exacts, c'est que depuis 70, donc depuis la fusion entre AFL et NFL, il y a eu 404 équipes qui ont commencé en 0-2 et il y en a seulement 39 qui se sont qualifiées. Donc on parle de moins de 10%. Pourquoi je vous dis ça ? C'est que ma question, c'est la suivante, Victor. Est-ce que si les Seahawks perdent ce match-là, ils sont déjà enflammades, hein, hashtag, éliminés de la course au play-off ?
Alors, éliminé, non, parce que la NFC est une conférence extrêmement homogène, avec un niveau global, je pense, en tout cas, un peu plus bas que l'AFC en ce qui concerne les grosses équipes. Mais c'est sûr que commencer à 0-2, avec deux matchs qui étaient sur le papier gagnables, alors les Lions, on peut dire que c'est du 50-50, mais les Rams, théoriquement, tu te gagnes, hein, en première semaine. Après, sur le papier, hein, c'est toujours pareil. Ils ne l'ont pas gagné. Bah oui, ils sont pas au bord du précipice, mais enfin, il faudrait pas qu'ils tardent quand même à reprendre leur marche en avant. Alors pour l'instant, moi, j'ai plaidé dans les débriefs la thèse de l'accident. Il va quand même falloir voir, parce qu'ils ont un problème de tackle, là, avec la blessure de Jason Peters. La blessure de Cross et de Lucas. Et du coup, ils ont pris Jason Peters, qui a 41 ans et qui est cramé depuis des années. Mais il paraît que. Mais non, mais je le dis avec tout l'amour du monde, c'était un Hall of Famer chez nous.
On l'embrasse. Hein.
J'aime d'amour, mais.
Il nous écoute sans doute.
Il continue à jouer parce qu'il a dépensé tout son argent n'importe comment, mais bon, bref. C'est le jeu. Après, voilà, sur le papier, bah, tu vois, si tu compares avec les Lions, au niveau du quarterback, on va dire que c'est à peu près similaire. Ils ont un groupe de coureurs qui, pour moi, est supérieur. Ils ont un meilleur tight end. Ils ont des meilleurs receveurs. À partir de ce moment-là, déjà, ça discute. Et même derrière, pour moi, ils sont censés avoir des meilleurs defensive backs. Bon, qui se sont troués contre Rams, évidemment. Mais encore une fois, ce n'est jamais qu'un match. Mais sur le papier, cette équipe de Seattle, elle est censée pouvoir répondre à Détroit et jouer la gagne. Et c'est vrai que c'est toujours ça, un peu cet inconnu. Quelle réaction post-semaine 1 ? On a vu des équipes s'écrouler, on a vu des équipes où ça leur a fait cette petite piqûre d'orgueil qui a fait que la machine s'est remise à marcher. Tous les scénarios sont possibles, mais c'est sûr que si les Lions perdent, c'est pas très grave. Si les Seahawks perdent, les conséquences vont être bien plus importantes pour eux. Et tu vois, certains diraient que dans les affiches, il y avait des matchs peut-être un peu plus attractifs, comme Chiefs-Jaguars ou des choses comme ça. Mais,
oui, mais on en parle tout le temps.
Alors déjà, il y a des équipes dont on sait qu'on va parler 10 fois dans la saison, donc on va éviter de les répéter. Et puis, j'ai vraiment l'impression que c'est le match qui a le plus d'enjeux à court terme et qui risque de nous apprendre le plus de choses. Donc je pense vraiment que c'est le match le plus important de cette semaine.
Ben, je te rejoins. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Hein. Après tout, c'est vraiment notre métier hein, de sélectionner les affiches les plus belles pour
évidemment.
Vous. Je voudrais qu'on commence par parler des Lions qui sont, on l'a dit, sur une excellente dynamique. Et je te propose plusieurs atouts ou raisons qui font qu'ils gagnent ce match-là. Et tu choisis ce qui te plaît. La ligne offensive, le jeu de passe, la défense aérienne, le pass rush. Est-ce que là-dedans, il y a quelque chose qui t'inspire ?
Bah, la ligne, hein. Moi je suis un partisan de construire par les lignes d'abord. Et j'ai envie de te dire les lignes. C'est-à-dire que si Détroit doit gagner, c'est grâce à sa ligne offensive et à sa ligne défensive. Pour moi. Et à l'inverse, si Seattle doit gagner, c'est grâce à ses receveurs et ses defensive backs. Voilà.
Bon, bah, c'est logique. Vous avez compris toutes les clés de ce match-là. Non, moi, je suis assez d'accord avec toi. Et notamment, moi, côté pass rush, t'as mentionné Aidan Hutchinson, qui a l'air de repartir sur une grande saison. Moi, j'ai hâte de voir ce qu'il peut faire. J'ai surtout hâte d'entendre Geno Smith crier Oh my god, quand il va lui foncer dessus. Si vous n'avez pas entendu, en semaine 1, il y a Aaron Donald qui fonce sur Geno Smith, qu'on entend crier de peur, je pense. Dans les listes que je t'ai données, j'ai volontairement exclu le jeu de course de Détroit. Est-ce que c'est leur point faible aujourd'hui, au vu de ce qu'on a pu voir en semaine 1?
Bah, s'ils s'obstinent avec Montgomery, oui. Mais alors moi, il y a un truc qui m'a un peu étonné, c'est que Jahmyr Gibbs, à chaque fois qu'il était sur le terrain, il était 4 fois plus explosif que Montgomery, et tu sentais que ça pouvait être la dynamite qui fait exploser la défense. Et à chaque fois qu'il faisait une bonne course ou une bonne réception, bah, on le mettait sur le banc et on laissait Montgomery faire ses courses de 2 yards. Donc, j'ai envie de dire, ça dépend du coaching, là. Je pense qu'il faudrait impliquer un peu plus Jahmyr Gibbs, parce que oui, si tu continues à avoir en lead rusher Montgomery, c'est pas flamboyant, quoi.
T'as mentionné sur les lignes arrières de Détroit en défense, Brian Branch. Pour info, c'est le troisième rookie depuis 2003, donc depuis 20 ans, à faire une interception retournée en touchdown sur son premier match en carrière. C'est plutôt sympa comme stat. Mais bah, voilà, à voir si il va pouvoir être disponible pour le prochain match.
C'est qui les deux autres, tu les as?
J'ai... bah alors là, du coup, tu mets une colle parce que je les avais pas notés, mais je vais regarder ça tout de suite. Moi, cette défense aérienne des Lions, elle me plaît quand même. J'ai l'impression qu'elle est capable de faire des trucs. Et du coup, face à une attaque de Seattle qui a été un peu moribonde sur le premier match, euphémisme, pourquoi ne pas les embêter un peu aussi, tu vois?
Non, mais c'est sûr. C'est sûr que pour le coup, je trouve que c'est vraiment un match, c'est la définition même du 50-50. Tu vas avoir des très bons arguments des deux côtés du terrain, en fait. C'est assez impressionnant.
J'ai retrouvé l'info juste pour toi et pour nos auditeurs. C'était Mike Hughes en 2018 avec Minnesota et Ryan Kerrigan en 2011 avec Washington.
Ah là là, Ryan Kerrigan.
3 en 20 ans.
Ça ne nous rajeunit plus. Eagle Slayer, comme on l'appelle chez nous. À chaque fois qu'il jouait contre nous, il était surmultiplié. Bref.
Je t'avoue que je me souviens plus bien des résultats de Ryan Kerrigan face aux Eagles. Hein. Côté Seattle, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Parce que tu disais hier dans le podcast, et tu leur dis qu'ils sont censés être meilleurs que ça, mais ça commence par où? Est-ce que c'est la défense qui bloque Jared Goff? Est-ce que c'est Geno Smith qui redevient l'excellent quarterback qu'il a été la semaine dernière? Qu'est-ce qu'il faut espérer côté Seattle?
Pour moi, c'est clairement d'abord la défense. Tu ne peux pas te prendre 30 points contre les Rams. En fait, tous les joueurs ont sous-performé. Les Quandre Diggs, qui est pourtant Quandre Diggs, tu vois, c'est plutôt un vétéran de vétéran. Hein. Il en a vu. Julian Love, pareil. Enfin, tous ces joueurs-là du deuxième rideau doivent absolument progresser. Il va falloir aussi trouver des solutions au niveau des linebackers parce que j'aime beaucoup Bobby Wagner. Il peut plus couvrir. Enfin, je veux dire, il peut encore défendre la course, mais à son âge, il peut plus couvrir, quoi. Il y a un moment, il faut être honnête. Et Jordan Brooks, c'est pas incroyable non plus. Donc voilà, il y a un moment, ces defensive backs, ils doivent être aussi à un énorme niveau pour compenser les éventuelles faiblesses des safety, des linebackers. Et je pense vraiment que la clé, elle va être là. Et au niveau de l'attaque, j'ai pas vraiment une espoir dans un truc. C'est juste, ils étaient rouillés, c'est pas passé, rien n'a été la première semaine, juste retrouver le groove de l'année dernière, en fait.
On est d'accord. Je trouve aussi, et c'était presque décevant, parce qu'on était content de voir Geno Smith revenir à un niveau comme ça l'an dernier. Il a quand même du matos pour faire mieux que ça autour de lui. Et donc moi, j'attends que cette équipe, en tout cas cette escouade offensive, se mette un peu au niveau. Et on l'a dit tout à l'heure, on pense que c'est une des affiches les plus importantes en termes d'enjeu global, mais je pense quand même que si les deux se mettent, en tout cas si les Lions maintiennent le rythme et si les Seahawks se mettent au niveau qu'on connaît d'eux depuis l'an dernier, ça peut être une super affiche. L'an dernier, pour rappel, ça avait donné 48-45 en semaine 4 en faveur de Seattle. Il y avait eu plus de milliards en cumulé sur les deux équipes, enfin, c'était un match absolument explosif. Alors, j'y crois un petit peu moins pour cette année. Mais Victor, c'est quoi ton score? C'est quoi ton prono pour ce match-là?
Il est dur. Il est vraiment dur.
Ah bah, je sais.
Écoute,
Non, mais c'est ton
Moi,
métier,
je suis parti sur la réaction d'orgueil des Seahawks qui vont l'emporter 31-27.
Ah ouais, moi je vois moins que ça quand même, parce que je pense que les défenses vont un peu hausser le ton, et surtout celle de Seattle. Moi je voyais un 21-16, un truc comme ça, tu vois, pour les Lions plutôt. Je pense qu'ils vont pouvoir se
maintenir. Et d'ailleurs, symbole de cette indécision, dans la rédaction, on est à 3-3. 3 pour les Seahawks, 3 pour
Tout
les
à
Lions.
Fait. Et tu fais bien de mentionner la rédaction, puisqu'on va parler maintenant de tous les pronos de cette semaine 2. C'est parti après le jingle.
It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night! And it's our division! It's our time to go win it! We're gonna start fast and finish strong! Yes, sir. And we're gonna work on three! One, two, three, work!
Est-ce qu'on est obligé de faire un point
oui,
sur les scores,
oui,
Victor?
Oui.
C'est obligatoire, obligatoire. Mais
oui,
vraiment,
enfin, absolument.
D'accord. Parce que je.
Si, bon. Si. Okay. Tu veux que je les donne? Est-ce que.
Non, vraiment, ça va aller. Non, tu es bien gentil. Vous allez vite comprendre ma réticence à me lancer sur ce sujet-là. C'est que on va faire le point sur les scores de toute l'équipe après la première semaine. Et donc, on va faire du plus petit au meilleur, hommage au vainqueur. Et le dernier de cette première semaine, c'est votre serviteur ici présent, avec un terrible 6/16. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne comprends pas, tout n'a rien n'a tourné en ma faveur. J'étais le seul à mettre les Bills qui, malgré la perte d'Aaron Rodgers pour les Jets, ne gagnent pas ce match. Bref. Donc, les pronos, les résultats, 6/16 pour moi-même. Grégory est 5e avec 8. Victor, tu es 4e à 9 points. Alain et Raphaël sont 2e ex aequo à 10. Et c'est notre ami Luca Vola qui entame fort la saison avec un 11/16. Mais rassurez-vous, comme disait un grand philosophe boulonnais, la roue tourne va tourner. On est parti pour tous les pronos de cette semaine 2. Et on commence avec le match de ce soir ou d'hier soir si vous nous écoutez vendredi. Puisque c'était dans la nuit de jeudi à vendredi le Thursday Night Football entre les Eagles qui sont à 1-0 et les Vikings à 0-1. Victor, est-ce que tu veux une petite histoire sur ce match? Une petite histoire de derrière les fagots, un petit bon gros comme ça. Hassan Reddick, linebacker des Eagles, tu connais, va retrouver son ancien coach de position. Alors là, on parle dans des trucs un peu lointains, mais accrochez-vous, ça vaut le coup. Mike Siravo, qui est parti à Minnesota, qui était chez les Panthers l'an dernier, avec Hassan Reddick. Mais les deux hommes se connaissaient déjà, puisque le savais-tu, Hassan Reddick a joué à Temple.
Mmh. Oui, ça, je
sais. Il y a longtemps,
sais.
Et Temple joue dans le Lincoln Financial Stadium, le stade de Philadelphie, là où Mike Siravo était déjà à l'époque avec Temple, son coach de position des linebackers.
Ah,
donc voilà, deux hommes qui vont se croiser dans le stade où ils ont grandi ensemble, où Hassan Reddick est devenu la superstar qu'on connaît aujourd'hui. Je trouve que la boucle est bouclée d'une belle manière.
À Temple, c'est la vraie université de Philadelphie, puisque Penn State, c'est beaucoup plus loin, géographiquement parlant.
On va parler.
Oui, parlons de ce match. T'as raison.
Est-ce que non, mais voilà, ça me faisait plaisir de vous raconter cette histoire. Est-ce que Brian Flores peut redresser cette défense des Vikings? C'est ma question pour toi, Victor.
Non, parce D'accord. que d'un D'accord. dauphin, tu n'en fais pas un requin, et qu'à un moment, il a beau
Brian
être.
Flores a coaché les Dolphins.
oui, non, mais d'accord, mais il a beau être très long, je trouve, et je l'ai martelé depuis deux semaines, mais je trouve cette défense historiquement faible. Et que ce soit Daniel Hunter ou Harrison Smith, qui sont un peu les deux seuls qui restent avec un peu de talent, ils commencent à vieillir. Donc je suis très inquiet de l'état de cette défense.
Bon, qu'est-ce qui peut empêcher Philadelphie de gagner ce match?
Si, un deuxième match offensif catastrophique, c'est-à-dire qu'ils sont passés à côté de leur match offensivement en semaine 1, comme les Seahawks, comme d'autres. Eux, ils ont eu la chance de gagner le match, notamment parce qu'il y a eu un pick six, parce qu'il y a eu un fumble. Enfin, la défense, on va dire, a sauvé les meubles. Mais l'attaque de. Enfin, l'année dernière, les Eagles, c'est une des deux meilleures attaques de la ligue. C'était un rouleau compresseur capable de mettre 35 points à tout le monde. Clairement, on n'a pas vu ça en première semaine. Bon, ils n'avaient pas joué du tout d'après-saison. Donc, c'était peut-être juste mise en place. Mais en 4 jours, ça va être difficile à rectifier. Et il va falloir que l'attaque retrouve son niveau d'année dernière. Parce que. Si l'attaque se plante, l'attaque des Vikings, elle peut être explosive aussi. Hein. Il y a des armes.
Il y a du monde. Mais attention de ne pas tirer des conclusions trop hâtives après une semaine, une seulement. Hein. Bien sûr, ce n'est pas le thème de cette émission. Pronostic des Eagles.
Alors, pronostic des Eagles, notamment parce qu'on est en prime time et que Kirk Cousins, hein, évidemment,
Mais et d'ailleurs, l'année dernière, c'était déjà en semaine 2 le prime time Eagles-Vikings et il y avait, je crois, 24-0 à la pause de tête.
Ah bah,
mais non, je pense que les Eagles sont censés être au-dessus. Après, tu me dis que les Vikings ont gagné, je ne tombe pas de ma chaise.
Eh bien, on espère que tu ne te feras pas mal si jamais ça arrive. On enchaîne avec les matchs de 19h dimanche avec d'abord Jaguars qui sont 1-0 face aux Chiefs qui sont en 0-1. C'est le match sur 6 plays, messieurs, dames. Donc n'oubliez pas d'aller suivre les commentaires de Alain Mattei et Grégory Richard. Et puisqu'on est sur le thème de l'enflammade de la semaine 2, est-ce qu'on peut avoir les Chiefs en 0-2? Oh my god, est-ce que ce serait possible d'envisager ça? Je n'y crois pas du tout. Je pense que les Chiefs ont gagné, j'annonce. Mais... du coup, c'est quoi l'objectif pour les Jaguars sur ce match, Victor? C'est de faire une bonne impression?
Non, c'est de gagner le match.
C'est de gratter quelque chose? Oui, d'accord.
Bah non, mais surtout...
Tu crois vraiment aux Chiefs qui perdent?
Bah, s'il n'y a pas Travis Kelce, oui. Je ne dis pas que c'est, le scénario le plus probable, mais oui. Oui, je pense que c'est tout à fait possible. Je ne sais pas dans quel état est Kelce. Là, pour l'instant, c'est un peu silencieux sur son état. J'espère pour ma fantaisie qu'il va revenir, mais... Là, aujourd'hui, les Chiefs, on a vu que sans Kelce, c'était une attaque moyennasse, quand bien même Patrick Mahomes soit le meilleur quarterback de cette ligue.
Un truc qui va dans ton sens, je t'aide. Hein. Les Jaguars ont gagné leurs 5 derniers matchs à domicile.
Oui, et puis ils ont sorti aussi, une prestation d'équipe en confiance en semaine 1. Trevor Lawrence est en train de devenir un top 5 quarterback de la ligue. J'ai pas peur de le dire, c'était ma prévision d'avant-saison hein, dans un podcast.
C'est
donc,
vrai,
vous le savez. Non, écoute, honnêtement.
Ben vas-y, alors, mais pronostique les Jaguars, Victor Roulier, assume devant tout.
Vous avez tous mis les Chiefs. Allez.
Jaguars. Genre, non mais arrête. Oh là là, incroyable. Très bien.
Non, mais Jaguars.
C'est entendu. Bon. Allez, bah c'est validé, tu t'es engagé. Moi, je garde les Chiefs. Hein,
je vais perdre un point parce que quand on change au dernier moment, on se fait toujours avoir. Mais je vais au bout de mes idées parce que j'ai pas osé aller au bout de mes idées avec les Buccaneers la semaine dernière et j'ai perdu un point.
Eh ben moi, j'ai été au bout de mes idées et j'en suis à 6. Donc, je t'encourage à en faire autant. Falcons, 1 victoire, 0 défaite. Packers, 1 victoire, 0 défaite. Est-ce que Green Bay a de quoi stopper le jeu au sol d'Atlanta? Puisque finalement, s'ils y arrivent, c'est gagné pour eux, non?
Oui, c'est dur pour Reader présenté comme ça, mais c'est vrai que quand il a fait quoi, deux réceptions pour Kyle Pitts et un target pour Drake London, ouais, c'était un peu dur. C'est très unidimensionnel cette équipe. Après, est-ce qu'ils vont vraiment réussir à les stopper? C'est quand même pas gagné d'avance, même si la défense des Packers est loin d'être ridicule. Je pense que cette équipe des Falcons, elle est difficile à manœuvrer et elle est en pleine confiance. Les Packers, eux aussi, hein, ont réalisé une bonne prestation en première semaine. Hein. Mais je trouve que cette identité des Falcons, moi, elle commence à me séduire et j'ai l'impression qu'ils peuvent gagner dans n'importe quel... vraiment dans n'importe quel cas de figure.
Je vais rendre un peu hommage quand même à Desmond Ridder qui a fait quand même un 15/18 en première semaine, soit 83,3% de passes complétées, ce qui est le meilleur ratio sur cette première semaine de NFL. Donc, il y a quand même un peu de quoi faire. Après, c'est 115 yards au bout, on va pas s'enflammer, mais...
les hommes mentent pas des chiffres.
Exactement. J'ai l'impression que les Packers sont quand même un peu favoris, que le premier match face aux Bears a été plutôt solide de la part de Jordan Love. Moi, je vais aller avec les Packers, mais c'est pas le match le plus certain de cette semaine, on va dire.
Alain, Raoul, Grégory, Raphaël, Lucas, il n'y a que des Packers. Et c'est pour ça que... C'est pour ça que je vais me lever, tu vois, pour défendre les opprimés, pour défendre les équipes dont on ne parle plus.
Bien sûr.
Et je vais miser sur des Atlanta Falcons. Oui, monsieur.
C'est juste que toi, t'aimes les équipes à oiseaux.
J'aime les volatiles. Voilà, mais je mettrai pas les Cardinals pour autant.
Non, respectons-nous. On va voir ce que tu fais pour les Ravens. Bills, 0, 1 victoire, 1 défaite. Raiders, 1 victoire, 0 défaite. Alors, je sais que je suis dur avec les Raiders, mais franchement, moi, j'ai quand même du mal à y croire cette saison. Je sais que tu es dans ma team, donc tant mieux qu'on soit tous les deux ce soir pour en parler. Ce soir ou ce matin, d'ailleurs, selon l'heure où vous nous écoutez. Pour moi, ce match, il doit permettre aux Bills de se rassurer en mettant un camion de points et en remettant un peu les pendules à l'heure avec tous les gens qui disent qu'ils sont flingués. Je vous embrasse suite à ce que vous avez dit dans le fauteuil. Qu'est-ce que tu en
penses? Oui, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que Las Vegas a été moins mauvais qu'on aurait pu attendre. Et d'ailleurs, ils grattent une victoire et tant mieux pour eux. Mais j'ai l'impression que ça en dit plus sur le marasme à Denver que sur la qualité réelle de Las Vegas, en fait. Et du coup, il y a un moment, si les Bills ne sont pas capables de battre Las Vegas, bon, bah là, il faut arrêter de jouer au foot, quoi. Donc, je pense que là...
Il faut
revoir les Bills, et évidemment, ce que tout le monde va scruter, c'est Josh Allen doit arrêter de perdre des ballons. S'ils arrivent à simplifier leur jeu et à éviter les pertes de balles, je pense que même en limitant la prise de risque, ils sont censés gagner ce match.
On est d'accord. Il y a un duel à distance qui va être sympa entre Diggs et Adams, deux des meilleurs receveurs de la Ligue. Mais à part ça, moi, je vais avec la victoire des Bills. Pareil pour toi.
Pareil.
Bengals, 0 victoire, 1 défaite. Ravens, 1 victoire, 0 défaite. On a parlé de ces deux équipes-là dans le débat de la semaine, puisque c'est un match d'AFC Nord. Moi, je vois ça comme une opération rachat pour les Bengals, mais c'est pas si évident que ça. Pour info, Lamar Jackson n'a perdu qu'une fois en 7 matchs face aux Bengals. On a dit que la division allait être serrée. Est-ce que c'est déjà un must-win pour Cincinnati?
Complètement. Surtout que tu l'as dit, Lamar Jackson et John Harbaugh, en général, ont un avantage psychologique sur Zach Taylor et Joe Burrow. Malgré tout, on en a parlé dans le débat, tellement de blessés à Baltimore, tellement de blessés, qu'il y a un moment, je préfère prendre l'équipe qui a été nulle mais qui est au complet plutôt que l'équipe qui a été moyenne mais qui a déjà perdu 4 titulaires. Donc je mise sur le sursaut d'orgueil des Bengals.
Moi, je mise sur la nécessité quasi absolue de Cincinnati de gagner ce match-là, et donc je les vois gagner également. Les Lions à une victoire, 0 défaite face aux Seahawks, 0 victoire, 1 défaite. On en a parlé, moi j'ai pris les Lions, tu prends les Seahawks. On enchaîne avec les Texans à 0 victoire, 1 défaite face aux Colts, à 0 victoire, 1 défaite. Et bonne nouvelle, Victor, un rookie va gagner ce match.
Un quarterback rookie va gagner ce match, oui, ça c'est vrai.
Maintenant, lequel des deux
serait capable de faire match.
Lequel des deux t'as fait la... Ouais, ça, vraiment, voilà. Évitons de nous jinxer. Lequel des deux t'a fait la meilleure impression?
Sur la première semaine, je pense que c'est Anthony Richardson qui a fait la meilleure impression globale. Après, parce que notamment CJ Stroud des Texans a été abandonné par sa ligne. Les Texans, c'est leur spécialité. Hein. On l'a vu avec David Carr, on l'a vu avec d'autres. Dès qu'ils prennent un quarterback, ils font en sorte d'avoir la ligne la plus poreuse possible. Ça reste un minimum inquiétant. Malgré tout, ce match, je trouve que vraiment tu lances une pièce en l'air et tu regardes si c'est pile ou face, quoi.
Alors, tu vois, moi j'ai préparé cette émission en me disant on va quand même pas dire à l'antenne qu'on fait pile ou face pour savoir, mais puisque tu mets les pieds dans le plat, moi le seul truc que j'ai vu, c'est que je me suis dit c'est à Houston, peut-être que ça peut jouer en leur faveur, mais honnêtement, j'ai beaucoup de mal à choisir et j'ai pris les Texans. Qu'en est-il pour toi?
J'ai pris Texans aussi, mais c'est partagé dans la rédaction et ça ne m'étonne pas parce que très difficile à pronostiquer.
Un autre qui est difficile à pronostiquer, c'est le match entre les Buccaneers de Tampa Bay à 1 victoire, 0 défaite face aux Bears de Chicago à 0 victoire et 1 défaite. Et en fait, alors, je vais être tout à fait transparent, j'ai mis les Bears sur le fichier des pronos, j'ai choisi les Bears et tout, mais plus j'y pense... Et plus j'ai quand même l'impression que les Buccaneers sont meilleurs. Donc, convainc-moi. Vas-y.
Écoute, je suis un peu comme toi. C'est-à-dire que plus j'ai mis les Bears et plus j'y pense et moins ça me plaît. Ils ont loupé leur match face aux Packers. Ça devait être deux matchs qui pouvaient prouver qu'ils étaient des gîtes dans cette division, etc. Ça n'était pas le cas. Et à l'inverse, les Buccaneers se sont fait la surprise. Après, malgré tout, l'attaque des Buccaneers, ça, elle est limitée. Est-ce que Baker Mayfield va être toutes les semaines motivé comme il a été en première semaine? C'est pas sûr non plus. Je mise sur la glorieuse incertitude du sport. Et je me dis qu'il y a bien un moment quand même où les Bears doivent montrer quelque chose. Je pense que cette défaite en première semaine, Eberflus et Justin Fields, ils ont compris que ça commence à chauffer pour eux. Et je mise sur une réaction d'orgueil.
Bon, bah, du coup, tu m'as pas convaincu de changer mon prono. Je vais garder les Bears. Je sais pas si. Au moins, on tombera tous.
On tombera ensemble.
Tous parce que je crois qu'on a tous.
Non, 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 il y a 3 Buccaneers, 3 Bears.
Ah bon? Attends, mais ça a changé depuis tout à l'heure. Ah, peut-être pas, remarque. Bon. Ok, bah écoute, Bears pour toi et moi, on verra ce que ça donne. Titans de Tennessee, 0 victoire, 1 défaite face aux Chargers de Los Angeles, 0 victoire, 1 défaite. Alors, si Los Angeles arrive à ne pas prendre le bouillon au sol, parce que c'est quand même Derrick Henry la plus grosse arme de cette équipe, et c'est quand même la défense au sol le plus gros point faible des Chargers, peut-être que Los Angeles peut espérer mettre plus de points, parce que tu l'as mentionné dans le podcast de débrief de la semaine 1, Ryan Tannehill, c'est plus une enflammade, là, c'est une cramade totale. Ouais. Comment ça se passe?
Ouais, je suis d'accord que sur le papier, gros jeu au sol contre défense des Chargers, normalement, ça peut faire des étincelles. Après, ça malgré tout, l'attaque des Chargers aussi, elle est quand même bonne. En plus, sur les deux secteurs de jeu, c'est-à-dire que l'attaque des Chargers, elle est bonne à la course et bonne à la passe. Il y a un moment, que ce soit Tannehill, Malik Willis ou Will Levis sur le terrain, normalement, les Chargers doivent gagner. Vraiment, s'ils ne gagnent pas celui-là, il faut virer Staley dès maintenant. Je pense que les Chargers devraient l'emporter. Et encore une fois, je trouve qu'on parle tout le temps de Justin Herbert et tout, et très bien. Mais Austin Eckler, il y a un moment, il faudra lui rendre hommage parce que quel joueur! C'est un super joueur, comme dirait Jean.
Le nom de sa franchise. C'est un super joueur. Il a le nom de sa franchise, oui, et ça, vraiment, c'est la plus belle des choses. Mais ouais, alors pour ceux qui ne le savent pas, hein, j'ai un amour assez fort pour les Chargers, mais je crois effectivement que Kellen Moore a vraiment la possibilité de faire quelque chose à cette équipe. Je trouve que Justin Herbert distribue peut-être un peu mieux aussi, là, de ce que j'ai pu voir sur le premier match. Et donc voilà, si on arrive à contenir Derrick Henry et à. J'ai dit 11, zut. Si les Chargers arrivent à contenir Derrick Henry, peut-être qu'il peut se passer un truc. Je vais y aller avec eux quand même. J'imagine que c'est ton cas également.
Oui, tout à fait.
On enchaîne avec les matchs de dimanche à 22h05. Cardinals, 0 victoire, 1 défaite. Giants de New York, 0 victoire, 1 défaite. Alors, entre deux mots, hein, il faut choisir le moindre, mais ça peut pas être pire pour les Giants. Et puis, bon, les Cardinals, ils ont fait un match plutôt correct face aux Commanders. On va prendre les Giants, Victor, on va pas trop épiloguer.
Oui, bah, ils sont plantés sur le premier match dans les grands mergers, très bien. Mais enfin, bon, si tu regardes sur le papier, ils ont une meilleure attaque, ils ont une meilleure défense. Alors, oui, il y a un problème de ligne offensive. Mais ils sont censés dominer ce match. Là, vraiment, s'ils le perdent, il faut arrêter. Et les Cardinals, ce qui est un peu frustrant, c'est que la défense a été meilleure qu'attendu. Mais le vrai point faible, c'est Dobbs, le quarterback.
Ah bah, c'est pas
oui,
une
mais bon, des mecs trade un cinquième tour à une semaine de la saison pour lui, plutôt que de garder Colt McCoy. Est-ce que ça aurait été pire avec McCoy? Je sais pas. Il aurait peut-être pas fait un fumble toutes les trois actions. Donc, je sais pas. Ça me dépasse un peu la gestion de Cardinals, mais bon.
Giants. Autre match qui a l'air plutôt évident sur le papier, les Rams à une victoire, 0 défaite face aux 49ers à une victoire et 0 défaite. Alors bravo aux Rams, hein, d'avoir eu du répondant sur le premier match face aux Seahawks. Enfin, là les 49ers c'est quand même le cran dessus. Je pense surtout que la défense de San Francisco, ça va pas être de la tarte pour les Rams. Ils ont mis 5 sacs en semaine 1, ils ont l'air déchaînés. J'ai beaucoup de mal à envisager que les Rams réitèrent l'exploit face à ces 49ers là.
Oui, surtout que si je ne dis pas de bêtises, 8 des 9 dernières confrontations, ce sont les Niners qui ont gagné. La seule que les Rams gagnent, c'est celle en playoff. Bon, après tout, c'est celle qui comptait. Hein. Mais c'est vrai que le reste du temps, c'est les Niners qui l'emportent. Ouais.
Je te confirme que les Niners ont gagné les 8 derniers matchs entre ces
deux saisons régulières, du coup. Ouais, ce qui est logique.
Ouais,
c'est pour ça que je disais 8 sur 9. Ouais, c'est ça. Et oui, je pense que les Niners, ils ont montré qu'ils n'ont pas décidé de ralentir. Donc pour l'instant, on va leur faire confiance.
Niners pour tout le monde. Dimanche à 22h25, les Cowboys ont une victoire, 0 défaite face aux Jets. Une victoire, 0 défaite, mais c'est peut-être pas l'affiche telle qu'on l'attendait. Et on est désolé pour les Jets, on en a beaucoup parlé, mais sans Rodgers, ça semble un peu plus compliqué face à l'armada des Cowboys. J'ai du mal à imaginer que Zach Wilson soit capable de suivre le rythme. Maintenant, il y a quand même quelques beaux duels sur ce match-là. CeeDee Lamb contre Sauce Gardner, Garrett Wilson contre Trevon Diggs. Bon, pourquoi on peut voir des trucs rigolos, Victor.
Oui, on va voir en tout cas deux belles défenses qui ne fonctionnent pas exactement de la même manière, mais qui sont efficaces toutes les deux. Après, dans l'idée, les Jets peuvent le gagner, hein, mais c'est vrai que sur le papier, Dak Prescott contre Zach Wilson, bon, normalement, Dak Prescott, c'est un niveau au-dessus. Même si on sait que parfois, il peut déconnecter sur un ou deux matchs dans une saison, hein, ça lui arrive. Malgré tout, oui, bah, ça va être pareil pour tous les matchs des Jets. On a un goût amer dans la bouche, parce que là, on devrait être en train de parler d'Aaron Rodgers contre Dak Prescott, et on parle de Zach Wilson.
Ah bah, ça aurait été notre affiche de la semaine.
Ouais, alors on aurait peut-être évité, parce que ça aurait fait trois podcasts sur des Jets d'affilée, mais...
Bah non, mais là, on en a beaucoup parlé,
bien
parce
sûr,
qu'il y a
bien sûr,
la blessure
oui,
de Rodgers.
Tu as raison.
Bon, de toute façon,
oui,
Cowboys.
Oui, bah, Cowboys, mais je pense que la défense des Jets, ça va embêter tout le monde, hein, toutes les semaines, donc...
Ah bah, ils ont plus
Cowboys
que ça, de toute façon.
Oh, ils ont jeu de course, quoi. Ils ont la défense et le jeu de course, mais oui, Cowboys quand même.
Broncos, 0 victoire, 1 défaite. Commanders, 1 victoire, 0 défaite. Les Broncos, je trouve qu'ils doivent se racheter. On en a mis trop autour de Sean Payton. Il y a trop de talent autour de Wilson pour perdre ce match-là. S'ils perdent celui-ci, c'est la hype, elle dégonfle puissance 1000. Il y a un motif d'espoir pour Washington, tu trouves ?
Bah, y a toujours, hein. Y a des fondamentaux en défense, il y a des playmakers en attaque, tu peux toujours en voler un. Mais si les Broncos en effet perdent contre Las Vegas puis Washington, là, ouais. Ça sera plus possible. C'est un match qui est pas enthousiasmant, en tout cas par rapport aux performances de première semaine, mais qui pourrait vite devenir un vrai match à suspense. On va attendre mieux de Sam Owens, ça c'est sûr, et qu'il utilise aussi mieux ses armes comme Terry McLaurin, etc. Malgré tout, je dirais quand même que ça peut potentiellement être une affiche intéressante. Je vais sur les Broncos, mais je ne suis pas si confiant que ça.
Non, difficile d'être confiant sur les Broncos après ce qu'on a vu en semaine 1 de toute façon. Dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20, le Sunday Night Football entre les Patriots à 0 victoire, 1 défaite face aux Dolphins à 1 victoire et 0 défaite. Des Dolphins, vous en avez beaucoup parlé, qui sont en feu, surtout Tyreek Hill et Tua Tagovailoa. D'ailleurs, petite stat, c'est la première fois depuis Dan Marino qu'un quarterback des Dolphins mène la ligue en yard à la passe. Hashtag enflabade, bien sûr, semaine 1. Mais Bill Belichick, il aime bien embêter les Dolphins. Est-ce qu'il a de quoi le faire sur ce match ?
Défensivement, oui. Pré-offensivement, pas vraiment. C'est-à-dire que c'est vraiment force contre force et entre guillemets faiblesse contre faiblesse. Même si la défense des Dolphins, on attend beaucoup mieux sous Fangio. Ça a été mauvais en première semaine, mais on attend. Et c'était quand même, encore une fois, les Chargers en face. C'était pas n'importe qui. Mais la défense des Dolphins sous Fangio, on en attend beaucoup plus. Donc quand même, je dirais, c'est l'effectif le plus complet. En plus, Belichick, autant il martyrise les Jets, autant même dans les pires périodes des Dolphins, je ne sais pas pourquoi les Dolphins, ça a toujours un peu embêté. Non, moi, je vais partir sur les Dolphins.
Moi aussi, et tu vois, plus je pense à cette affiche, plus j'ai quand même l'impression qu'elle est quand même un peu plus excitante que juste des Patriots qui sont très loin de ce qu'on en connaît depuis des années, et des Dolphins qui sont forcément meilleurs, mais... Moi, je sais pas. Moi, elle m'ambiance un peu, cette affiche, j'avoue. Lundi à mardi, dans la nuit, à 1h15, il y a un double header, tiens, de Monday Night Football. Ouais. C'est rigolo. On va avoir d'abord un match à 1h15 du matin entre les Panthers à 0 victoire, 1 défaite face aux Saints à 1 victoire et 0 défaite. Et en fait, Derek Carr avec ce Saints, pas si mal, hein. Des bonnes cibles, 23 sur 33 à la passe, 305 yards, un touchdown, une interception. Mais... ouais, pourquoi pas en fait cette équipe des Saints avec Derek Carr, tiens. Moi je. Pourquoi pas.
La deuxième mi-temps était beaucoup plus encourageante que la première. Oui, on a un double header et qui se joue à une heure de décalage, ce qui fait que si tu veux regarder les deux matchs, il faut les regarder en même temps. Ils ont fait la même chose l'année dernière, oui. Je ne sais pas pourquoi, ça me dépasse un peu. Après, voilà, là les Saints contre les Panthers. Normalement, les Saints, avec ce qu'ils ont montré et l'effectif qu'ils ont, ils doivent poursuivre la dynamique et dominer ce match de la tête et des épaules. Je ne suis pas très inquiet.
On est d'accord, mais il y a un duel à distance que je trouve rigolo. C'est celui entre Cameron Jordan et Justin Houston, qui sont deux des meilleurs sackers encore en activité de la ligue, qui sont tous les deux à plus de 100 sacks chacun. Donc bon, voilà, à voir si l'un comme l'autre peuvent faire poser le match dans un sens comme dans l'autre. Et enfin, le dernier match de la semaine, et on a pas mal parlé de cette équipe, c'est les Steelers face aux Browns. Les Steelers en 0 victoire, 1 défaite, et les Browns en 1 victoire et 0 défaite. Moi, je vois bien une bonne dynamique de Cleveland. J'ai des doutes sur Pickett et l'attaque de Pittsburgh. Donc, je vais sur les Browns. Qu'en est-il pour toi, Victor?
Oh bah, j'assume notre enflammade. Je vais sur les Browns aussi.
C'est parfait. Voilà qui termine notre séance des pronos. On va finir ce podcast avec les cotes juste après ce jingle. Et on retrouve notre partenaire Unibet comme chaque semaine pour les cotes de la semaine en NFL. Quel match t'as fait de l'œil, Victor? Est-ce que t'as une petite cote pour moi?
Eh bien, écoute, je vais te laisser commencer parce que, évidemment, comme à chaque fois, mon ordinateur freeze. Mais je vais
tradition,
revenir.
Tradition. Moi, j'en ai quelques-unes. Je vais te les donner. Vas-y. Et puis tu vas me dire si là-dedans ça te parle. Déjà, moi, la première chose, c'est que j'ai vu que les Packers étaient à 1,72 en étant favoris du match face aux Falcons. Ce qui est quand même pas ridicule.
Bah oui, mais du coup, j'ai envie de jouer les Falcons, moi.
La cote est encore plus intéressante, mais moi, comme je pronostique les Packers, je trouve qu'à 1,72, ils sont bien. Non, ça, alors ça va me faire du mal, mais les Titans à 2,19 face aux Chargers, ça me paraît beaucoup. Alors que...
Attends, moi, j'ai pire. Les Seahawks à 2,72.
Ouais.
Non, mais attends.
Ouais, c'est vrai.
Attends, les Titans ont plus de chances, selon Unibet, de gagner le match contre les Chargers que les Seahawks ont de chances de gagner contre les Lions.
Et tu trouves pas que c'est le cas?
Non.
Ok, non, bah, ça me va.
J'aime bien les Seahawks.
Et moi, il y avait les Dolphins à 1,64 face aux Pats. Pareil, je trouve que pour une équipe qui est favorite, c'est quand même une belle cote.
Ouais, tout à fait.
Alors, qu'est-ce qu'on choisit là-dedans? On en retient 3. Tu veux mettre les Falcons? On peut mettre les Falcons. Hein.
Non, mais on met. Tu voulais les Packers, donc on met Packers, Seahawks, Dolphins.
Alors, Packers, je les ai. Les Dolphins, je les ai. Et si je vais chercher les Seahawks, on fait ça en temps réel. Une cote de 7,67€. Si vous mettez 5€ de mise, vous avez des gains potentiels de 38,36€. Vous pouvez vous payer un petit restaurant seul si vous êtes à Paris, entre amis si vous êtes ailleurs. Est-ce que tu veux faire un petit YOLO là, comme ça?
Ah bah évidemment. Déjà, on commence avec les Jaguars à 2,20.
Oui, j'allais te les dire. Je les aime bien dans ce YOLO là. On peut mettre les Seahawks du coup.
Bah, ils y sont déjà. On a mis les Packers et les Seahawks.
Ah, tu les rajoutes.
Oui, monsieur.
Ça fait trop longtemps que j'ai plus fait ce podcast.
Non, mais je vois que tu nous écoutes assez régulièrement. Ça fait plaisir de sentir que
tu nous soutiens. Il n'y en a eu qu'un seul.
Et moi, il y aurait un autre du coup qui me plaît un petit peu. Enfin, je veux peut-être conjurer sort, hein, mais tu sais à quel point les matchs du jeudi sont volatiles. Est-ce qu'on ne joue pas les Vikings à 2,85?
Alors on peut, maintenant, tu sais bien que comme les gens nous écoutent peut-être vendredi,
ah oui, non, c'est
pas
vrai.
Très sympa pour
eux. Le match du jeudi est interdit, j'avais oublié.
Eh oui, c'est la règle, c'est la règle. Vous pouvez,
tu as
si
raison.
Si vous nous écoutez jeudi, vous avez le droit, mais...
Tu as raison de me rappeler alors de match du
c'est
jeudi.
C'est moi que j'écoute, alors...
Ouais, non, finalement... Mais alors, c'est...
Les Bears à 2,10 face aux Buccaneers.
Ok, oui.
Les Bears à 2,10 face aux Buccaneers, on en est à 5. Est-ce qu'on en met un petit sixième histoire de... Voilà, on rappelle, c'est un YOLO. Hein. Le but, c'est de voir ce que ça peut donner. Qu'est-ce que je peux te proposer comme grosse cote? Rams-Niners, on va peut-être pas exagérer. Hein. Là, c'est
les YOLO, les Cardinals qui créent la surprise contre des Giants en crise de confiance.
Ou les Ravens face aux Bengals.
Ouais, non, t'as raison. Ils c'est peut-être trop... un petit peu plus...
Ils sont très blessés. Ou alors les Titans. Titans à 2,22. Ou les Jets.
Moi, je n'y crois pas une seconde. Mais
alors,
en fait,
alors YOLO total, les Jets. Puisque
ouais,
les Cowboys, on l'a dit,
Dak
Prescott lâche de temps en temps. Ils ont une super défense.
On va leur donner un peu de soutien psychologique. Et on va jouer les Jets. T'as raison, c'est ça qu'il faut faire.
Allez,
dans le YOLO.
On fait comme ça, le YOLO 3,82 les Jets. Donc, le YOLO, je le rappelle. Les Packers à 1,72. Les Seahawks à 2,72. Les Jaguars à 2,20. Les Bears à 2,10. Les Dolphins à 1,64 parce que voilà. Et les Jets à 3,82. Et ça, messieurs, dames, pour une mise de départ de 5€, vous avez 727€ de gain potentiel pour une cote à 135,41. Donc là, c'est beaucoup plus rigolo. Maintenant, on le rappelle, quand vous pariez, ne pariez que ce que vous pouvez miser. Le but, c'est de faire attention aussi de votre côté. Est-ce que ça te convient, Victor?
Oui, tout en rappelant évidemment de jouer, comment dirais-je, de manière raisonnable, et que si vous sentez que vous perdez le contrôle, il y a des systèmes d'aide et des numéros d'aide pour vous aider dans votre dépendance si jamais on en arrive jusque-là.
évidemment, faites toujours attention à ça. Voilà pour les cotes de la semaine avec notre partenaire Unibet. Et voilà pour le podcast, puisque on a fait le tour de tout ce qu'on avait à vous dire. Merci beaucoup à toutes et tous de nous avoir écoutés. L'émission vous était présentée par Sisplay. N'oubliez pas, vous pouvez vivre la saison régulière avec Sisplay tous les dimanches à 19h. Une affiche NFL en direct gratuitement, commentée cette semaine par Alain Mattei et Grégory Richard. Je vous rappelle l'affiche qui est très belle entre les Jaguars de Jacksonville et les Chiefs de Kansas City. Rendez-vous pour ça sur l'appli Sisplay ou sur sisplay.fr. Victor, merci beaucoup.
Ben merci Raoul, un plaisir de te retrouver.
Plaisir extrêmement partagé. Toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com, tdactu sur Facebook et Twitter, touch dans l'actu sur Insta, j'ai oublié sur TikTok, mais abonnez-vous. Abonnez-vous partout d'ailleurs, mettez des étoiles.
On est sur TikTok ?
Mais on est sur TikTok évidemment, enfin
c'est
Victor,
incroyable.
Dans quel monde vis-tu ? Soutenez-nous sur Tipeee si vous aimez ce qu'on fait, si vous voulez nous aider. Et si vous voulez un joli porte-clés brodé, Touchdown Actus, c'est la contrepartie pour l'instant. Il est absolument magnifique. Ça fait un peu flamme, vous savez, de trucs dans les avions, là. Pas flamme, le feu, hein. Mais ça s'appelle comme ça. Et c'est le thème de l'enflammade de la semaine, donc on est tout à fait dedans. Rendez-vous demain pour le podcast Draft avec Niti et Jean-Mi, si je ne dis pas de bêtises.
Exactement, et ça va parler de receveurs et particulièrement de Marvin Harrison Jr., le fils d'eux.
Ah oui, parce que j'allais dire, pour une fois, je connais un joueur en NCAA.
C'est le fils d'eux.
Très bien, ce sera demain sur toutes vos plateformes de podcast. En attendant, encore une fois, merci beaucoup. Rendez-vous sur tdactu.com pour toute l'actu de la NFL. Et rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.